Professeur Morm Dao, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la France a été reconnaissante à la hauteur du sacrifice consenti par les tirailleurs sénégalais?
Oh, je serais un peu dubitatif parce que la France a été reconnaissante, mais sur le tard, il me semble que j'ai mobilisé dans un contexte extrêmement difficile, qui ont contribué par l'impôt du sang. Et la mobilisation de la colonie par rapport à l'effort de guerre méritait reconnaissance de la France après la démobilisation. Et la preuve, on peut prendre l'exemple de Abdoulaye Ndiaye, qui, des décennies durant, il ne savait même pas, dit-il, qu'il y avait des pensions. Donc il a vécu dans la misère, dans l'isolement, dans le déniment, après la campagne, les grandes campagnes de la Grande Guerre. Il a été blessé à plusieurs reprises, mais dès qu'il a été démobilisé, il a plongé dans l'oubli, dans le dénuement, dans la pauvreté. Et lui, c'est par hasard qu'on lui a dit que bon, il y a des pensions, il faut aller à Dakar. Et le jour où il devait être décoré, reconnu par la France avec la Légion d'honneur, le lendemain, disons, il est décédé. C'est tout un symbole. Donc, si la France a reconnu le rôle majeur de ces tirailleurs durant la Grande Guerre, c'est sur le tard. Et toute la production agricole de l'Afrique occidentale française a été réquisitionnée par le ministère du Ravitaillement.
Alors, pendant les trois premières années de la guerre de 14, le recrutement de soldats africains s'est très mal passé. Il y a eu des révoltes dans les villages. Et puis sont arrivés Georges Clémenceau et Blaise Diagne. Qu'est-ce qui a changé avec ces deux hommes?
Oui, vous savez, Clémenceau a une vision un peu plus humaniste de la colonisation. C'est la théorie de l'association, c'est un peu la reconnaissance de ces populations qu'il faut civiliser, mais aussi qu'il faut assister. C'est ça, le génie de Clémenceau. Et Blaise Diagne aussi, c'est la rupture, c'est la première fois qu'un noir a été porté à la tête, disons, de la colonie pour représenter les quatre communes. Et Blaise Diagne a noué des alliances avec les chefs religieux, avec Cheikh Amadou Bamba, pour établir une alliance, une coopération entre l'administration coloniale et les chefferies traditionnelles. Et ces chefs religieux ont mobilisé leurs fidèles comme troupes qu'ils ont mises à la disposition de l'administration coloniale. Donc il y a une alliance avec Blaise Diagne qui a travaillé le terrain, qui s'est allié avec les chefs religieux pour progressivement faciliter l'adhésion des populations à la cause sacrée, c'est-à-dire défendre la France. Donc, si dans un premier moment, il y avait une réticence, à partir de 1916-1917, il y a un engouement avec l'appui des chefs religieux.
Est-ce qu'on peut dire, Morm Dao, que les quelques 77 000 Africains recrutés par Blaise Diagne l'ont été sous la contrainte ou bien sans la contrainte?
Durant la première phase, il y a la contrainte qui a prévalu. Ce qui s'explique par des évitements, des fuites vers la Gambie, vers la Guinée-Bissau, des révoltes partout. Mais dans le cas spécifique du Sénégal, l'apport des chefs religieux a calmé, disons, la situation. Et il y a eu une adhésion massive des populations durant la seconde phase. Et dans la seconde phase, à partir de 1916, en fait, avec la venue de Blaise Diagne, il a pu réussir à se concilier les chefs religieux, comme le chef Mouride, Serigne Touba, Cheikh Amadou Bamba, comme le chef des Tidiane. Et ceux-ci, progressivement, ont adhéré avec le fidèle aux opérations de recrutement. Donc, dans cette seconde phase, on peut dire que la contrainte n'a pas été de mise, parce que c'est une sorte de coopération qui a été établie entre les chefs religieux, les chefs traditionnels et l'administration coloniale, lesquels chefs traditionnels ont mis à la disposition de l'administration coloniale, les talibés, les fidèles. Et pour donner l'exemple, ils ont donné leur fils aîné. Je donne l'exemple d'Ahmed Sy, qui est mort à Salonique, le fils aîné du calife général de Tidiane. Donc, on peut dire, en résumé, si dans la première phase, il y a eu des évitements, des révoltes, des soulèvements partout, à partir de 1915, lorsque Blaise Diagne, avec la mission Blaise Diagne, il y a une adhésion construite avec un impôt du sang pour mettre à la disposition de l'administration coloniale les fidèles et les populations locales.
Oui, donc le fils aîné du ralif général des Tidjanes est mort au combat en Europe. Et alors, dans ses tournées dans l'actuel Sénégal, l'actuel Mali, l'actuel Burkina Faso, Blaise Diagne disait à ses frères africains, en versant le même sang que les Blancs, vous obtiendrez les mêmes droits que les Blancs. Mais est-ce que sa promesse a vraiment été tenu?
Pas du tout, pas du tout. Franchement, il y a eu des révoltes de tirailleurs en Guinée, retournés au front, des grèves à travers l'Afrique occidentale française. Donc la France n'a pas respecté vraiment les paroles avancées. Et même sur la question du travail forcé aussi, ni Blaise ni la France n'ont pas tenu intégralement leurs promesses. Le système colonial s'est durci parce que d'abord Blaise Diagne a défendu le travail forcé au congrès de Genève 1932. Et à côté, il y a un mouvement nationaliste comme les Lamine Senghor qui ont posé la question de la dignité de l'homme noir, qui a été appuyée par des éléments de la diaspora, comme René Maran. Donc, il faudrait attendre 2001 pour que la décristallisation soit effective sous le président Wade. Donc, la France n'a pas joué le jeu, n'a pas respecté les engagements. Et pourtant, ce sont des frères d'armes. Pourquoi pas le même traitement avec leurs frères d'armes? Que ce soit Gallipoli, Oumkale, que ce soit Reims, Verdun, partout, ils ont subi les risques de la confrontation. Et de retour, ces promesses n'ont pas été tenues par la France.
Professeur Mor Ndao, merci.